Quelques jours après la Pentecôte, Pierre et Jean se sont rendus au temple de Jérusalem, pour prier. Et l'épisode est si important que l'Église l'a choisi pour en faire la première lecture de la grande fête des saints apôtres, Pierre et Paul. Pas Pierre et Jean, Pierre et Paul, la grande fête du 29 juin. Mais là, ce sont Pierre et Jean qui se rendent au temple et qui sont arrêtés à l'entrée par un infirme. Un des infirmes qui était à la porte du temple pour mendier, et qui leur demande, qui les arrête, qui leur demande l'aumône. Pierre fixe les yeux sur lui, ainsi que Jean, et il dit « Regarde-nous ». L'homme s'attend évidemment à recevoir quelque chose, il se dit « c'est bien parti ». Mais Pierre dit « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne ». Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il le prend par la main, il le relève. À l'instant, ses pieds, ses chevilles retrouvent de la vigueur, la force. D'un bond, il est debout, il entre avec eux dans le temple. Il marche, il gambade en louant Dieu. Et tout le peuple, tout ce qui était là, le voit marcher. Marcher et louer Dieu. Et l'on fut rempli d'effroi et de stupeur en voyant cela. Regarde-nous. En latin, respice nos, un verbe qui a donné le mot respect. Tant le respect est d'abord dans le regard. Ce regard que Pierre et Jean ont porté sur cet infirme, sur ce malheureux, sur ce mendiant, alors que, souvenez-vous, pendant le carême, au quatrième dimanche de carême, le récit de la guérison de l'aveugle-né, lorsqu'à la sortie du temple, Jésus voit ce mendiant, cet aveugle de naissance, que disent ses disciples? Ils disent, mais alors, qui a péché? C'est qui le pécheur? Qui a péché? C'est lui ou ses parents pour qu'il soit né ainsi? Leur regard a changé. Non seulement ils font attention avant d'entrer dans le temple, à ceux qui sont dehors, à ceux qui en sont exclus, ceux qui ne peuvent pas y entrer. Si ton frère a quelques griefs contre toi, laisse ton offrande là. Va d'abord te réconcilier avec lui. Donc non seulement ils font attention avant, mais ils ont à cœur de donner aux autres ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ils veulent vivre avec les plus petits de leurs frères cette relation que le Seigneur nous demande de vivre entre nous. « Seigneur, dit Philippe à Jésus, montre-nous le Père, ça nous suffit. C'est la face de Dieu que je veux voir. » Voilà ce qu'il aurait pu dire, voilà ce que peut dire, voilà ce que pense tout croyant. « C'est la face de Dieu que je veux voir, que je rêve et que je redoute de voir. » Qu'il rêve de voir, parce que c'est un rêve, c'est le désir le plus profond que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et en même temps, c'est ce que nous redoutons tous, parce que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Et si on le voit, c'est qu'on est mort. Alors, montre-le-nous de loin, semble dire Philippe. Dis-nous à aller sur quelle montagne, sur quelle hauteur inaccessible il se trouve, que nous nous en approchions un petit peu, mais assez prudemment. À la question fondamentale posée dans l'Évangile à Jésus, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Qui est mon frère? Eh bien, nous pouvons répondre, celui dont tu vois le visage. Il n'est pas nécessaire de connaître son nom. Souvent, d'ailleurs, nous ne le connaissons pas. Exactement comme dans la parabole du bon samaritain que Jésus raconte alors en réponse à la question de savoir qui est mon prochain. Nous ne savons pas le nom de ce malheureux, de cette victime. Mais nous pouvons en imaginer le visage, défigurer le visage de douleur, le visage de toute personne qui a besoin d'être secourue, reconnue, respectée. Alors, vous savez la parabole, le prêtre et le lévite non seulement détournent leur chemin, mais ils détournent leur regard, tandis que ce samaritain le voit, s'arrête, le regarde. auprès de tout malheureux, d'un blessé, d'un malade, il n'y a pas besoin toujours de compétences extraordinaires, nous pouvons toujours nous arrêter, le regarder, parfois lui prendre la main, parfois lui caresser le front, ou lui essuyer le visage, c'est le geste de Sainte Véronique dans le chemin de croix. Seigneur, montre-nous ton visage, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Voilà le cri qui retentit tout au long de la Bible, tout au long de l'histoire, qui rend encore plus extraordinaire le fait que les disciples n'ont pas reconnu Jésus ressuscité. N'en avaient-ils donc pas appris de lui à le regarder en face? Les fiancés que je prépare au mariage, je les taquine souvent en leur disant que mon rôle, ma mission principale, c'est de vérifier la joie sur leur visage. Qu'ils ont le sourire, qu'ils sont heureux. Je leur dis, moi, il me suffit de vous regarder pour m'assurer que ça va. La préparation, c'est ça. Vous venez tous les mois, je regarde, et je vérifie sur votre visage que ça va. Et ceux qui font grise mine quand c'est répétitif, là, je les convoque. À la messe, quand je donne la communion, j'essaye de regarder la personne, de la regarder dans les yeux. Exactement comme Pierre et Jean, ce que je crois, je te le donne, le corps du Christ pour la vie éternelle. De la regarder dans les yeux, d'entrer dans cette relation à égalité. Parce que en moi, ce n'est pas le Christ qu'il voit au moment de la communion. Le Christ, c'est l'hostie, c'est le pain de vie. Mais leur égard est leur frère. C'est ça la communion dans l'Église. Pour les baptêmes des petits-enfants, délicatement, j'essaie de ne pas mettre de l'eau dans les yeux, mais l'eau sur leur front, et ensuite l'onction d'huile, disent le sacré de toute personne, son visage. Et pareil pour les obsèques. Je vais très rarement à ce qu'on appelait avant la levée de corps, la fermeture du cercueil. Maintenant, il y a un très beau nom, c'est l'adieu au visage. J'y participe très rarement, mais à la première rencontre de la famille des proches, je leur dis, montrez-moi une photo, envoyez-moi, donnez-moi un portrait, que je puisse prier pour elle, que je puisse préparer la célébration en la contemplant, en regardant son visage. Le philosophe Emmanuel Levinas a écrit des textes magnifiques sur l'épiphanie du visage. Je ne les détaille pas, ils sont un petit peu trop compliqués pour moi. Il y a des gens qui sont plus experts que cela. Mais l'expression est magnifique. L'épiphanie du visage. L'épiphanie au sens de la manifestation d'une réalité cachée. Vous savez, avant on disait le miroir de l'âme. Le visage d'une personne, c'est la plus belle porte d'entrée dans son mystère. Le lieu idéal, le lieu par excellence de la rencontre. Et vous le savez bien, la façon dont ce qu'on appelle l'étincelle de l'amour qui jaillit si souvent d'un échange de regards. De Lévinas, j'aimerais savoir par quelle intuition il en est venu à passer de la notion du visage, ce qu'il appelle l'épiphanie du visage, à tout ce qu'il développe dans la continuité sur le sacrifice de soi. Le sacrifice de soi. Je le cite. « Je peux, dit-il, décider de me sacrifier pour autrui, par amour, par principe, pour sauver une vie. Mais si je peux moi-même faire librement ce sacrifice, je ne peux pas le réclamer en ma faveur. Ce que je me permets d'exiger de moi-même n'est pas comparable à ce que je suis en droit d'exiger de l'autre. » Il est très remarquable que Lévinas ait retrouvé philosophiquement ce que le Christ révèle évangéliquement par tout l'Évangile, par toute sa vie, à savoir le caractère inconditionnel et surtout asymétrique de l'amour. L'amour ne demande rien en échange. Et c'est le propre du regard d'être par nature demandeur, mendiant, demandeur d'une attention, d'une reconnaissance, d'un accueil, d'un retour. Je vous invite, mes amis, à contempler le regard que le Christ posait sur ses disciples lors de ce dernier repas, lors du discours d'adieu, lorsqu'il ne leur demandait rien d'autre que de lui faire confiance, de croire en son amour, l'amour infini, éternel, divin, trinitaire. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Qui m'a vu a vu le Père. Et ils sont pris par l'émotion, ils sont pris par la peur. Les disciples, ils ont le cœur bouleversé, troublé, et surtout le regard brouillé. Et il est très probable qu'ils n'arrivent plus à regarder Jésus. À l'annonce de la trahison, d'ailleurs, ils se regardent entre eux. Et il faudra attendre le jour de Pâques, il faudra attendre la fraction du pain pour que leurs yeux s'ouvrent à nouveau. Pour qu'ils puissent entrer par le don de l'Esprit, pleinement, évidemment, par la grâce de la Pentecôte, mais pour qu'ils puissent entrer par le don de l'Esprit dans la profondeur infinie du regard d'amour de Dieu. Vous pourriez aussi, cette semaine, vous souvenir dans l'Évangile de toutes ces rencontres de Jésus, des regards que Jésus pose sur les personnes qu'il rencontre. C'est certainement ce qui rend la représentation cinématographique si malaisée, voire presque impossible. C'est peut-être Zeffirelli qui s'y est peut-être le plus approché ou le mieux essayé d'essayer de rendre compte de quelque chose du regard de Jésus. Le regard du Christ, c'est le point de départ de notre rencontre de Dieu. Je suis devenu croyant quand j'ai rendu à Dieu, le psaume dit, tout le bien qu'il m'a fait. Non, pas exactement ça. Je suis devenu croyant quand j'ai rendu à Dieu le regard d'amour qu'il porte sur chacun de nous de façon unique, infinie, mystérieuse, le mystère de la foi. Il y a une quinzaine de jours, j'ai dit à ma maman que je travaillais, en ce moment je travaille sur l'épiphanie du visage. Je prépare une homélie sur le regard de Jésus, justement comme le signe, la présence de l'amour de Dieu en chacun. Elle était très malade depuis des mois et des mois et des semaines et elle vivait ses derniers jours. Je lui ai dit ça et c'est le dernier regard que nous avons échangé, longuement, très longuement, sans un mot, plein d'amour. Et elle est morte 2 jours plus tard. Elle connaissait très bien ce beau texte de Job, du prophète Job, des siècles avant le Christ. « Je sais, moi, que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. » Avec mon corps, je me tiendrai debout et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai. Et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. Oui, Seigneur, ton regard nous suffit.